Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur RCF. Aujourd'hui, je suis avec le député-maire de Sisteron, Daniel Spagnou. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons parler avec vous, Daniel Spagnou, de trois sujets. D'abord, de l'intercommunalité, et puis du désenclavement, et on terminera par les présidentielles 2012 pour cette fin d'émission. Alors, on va parler d'abord de l'intercommunalité. Ça, c'est un sujet qui divise beaucoup les élus. Alors on voit que le pôle manosquin commence à se former avec une estimation de pratiquement 60 000 personnes. On se rend compte que sur le pôle dinois, c'est un peu plus compliqué. La préfète disait faisait une évaluation à peu près 30 000 personnes. Les élus dinois et du pays ont du mal à se mettre d'accord. Quel regard vous portez-vous sur cette situation? Et puis comment Sisteron se positionne par rapport à cette nouvelle directive?
Voilà, moi ce que je dirais que déjà, c'est que la réforme territoriale que je n'ai pas votée puisque je me suis abstenu. Et je me suis abstenu à l'époque. Pourquoi ? Parce que je suis président des maires du département et que je savais que ça allait poser de gros problèmes. Je crois qu'on n'est pas encore prêt dans le département à regrouper toutes les communautés de communes, de tomber de 23 à 7, 8 comme il était prévu. C'était pratiquement impossible. Donc, moi, je souhaite et d'ailleurs, je viens de co-signer un projet de loi avec le président de l'Association des maires de France, M. Pélissard, pour justement se donner des délais supplémentaires. C'est-à-dire que là où on a eu des accords, où il y a eu un consensus, c'est le cas de Manosque, eh bien là, avant le 31 décembre, la préfète acte et prend l'arrêté conforme. Et là où, malheureusement, on n'est pas arrivé à faire encore un accord, où il n'y a pas consensus, il faut qu'on se donne quelques mois de plus. Parce que les choses ont évolué. Autant au début, quand on a lancé la procédure, les maires, beaucoup de maires n'étaient pas pour. Il y a eu beaucoup de délibérations négatives. Et puis maintenant, on voit que au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, certaines communautés de communes veulent négocier avec d'autres. Et petit à petit, on avance favorablement. Donc si on avait un délai de 3 ou 6 mois de plus, je suis persuadé qu'on arriverait à faire des choses intéressantes.
Quelle est la place des petites communes, là, dans cette nouvelle configuration?
Mais justement, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les petites communes ne soient pas les dindons de la farce, au contraire, qu'elles puissent bénéficier de la solidarité des communes beaucoup plus importantes. C'est là où ça blesse. C'est que les maires des petites communes ont peur de ne pas être assez bien représentés au sein des bureaux des communautés de communes. Ils ont peur d'être laissés pour compte de l'aménagement du territoire. Donc il faut leur donner des assurances. Il faut négocier, commune par commune, il faut négocier sa place dans la future communauté de communes. Et je crois qu'en se donnant du temps, on va y arriver. Vous me posez la question en ce qui concerne Sisteron. Sisteron, la préfète avait proposé que la communauté de communes de la Vallée du Jabron et la communauté de communes de la Motte-Turier se rapproche donc de la communauté de communes du Sisteronnais que je préside. Ben, il s'avère qu'il y a eu un vote des deux communautés de communes qui ont refusé de venir avec nous. Le motif, c'était de dire on veut pas être bouffé, voilà le terme qui avait été employé, qui m'avait choqué d'ailleurs, par la grande communauté de communes de Sisteron. Donc on veut rester indépendant. Et du coup, nous, on avait pris le même vote. Mais depuis, les choses évoluent, puisqu'on commence à se rencontrer avec les élus de la Motte-Turier, par exemple, et qu'on envisage de se mettre autour d'une table et de commencer à discuter réellement sur les compétences qu'on pourra mettre en commun. Moi, je dis qu'une communauté de communes nouvelle, ça veut dire un projet. On discute du projet. Qu'est-ce qu'on va faire pour les 20 ans à venir dans un territoire bien précis ? Plutôt que de parler tout de suite de gouvernance. Or, j'ai remarqué que les maires, notamment les petites communes, eux, ils veulent aborder le problème de la gouvernance. Or, vous savez, les hommes passent, les communautés de communes, elles resteront. Donc, la gouvernance, ce sont les hommes. Moi, je dis, et je le redis, commençons par travailler sur un projet. Et puis, une fois qu'on est d'accord sur un projet, la gouvernance, elle viendra toute seule.
Est-ce que le gouvernement n'a pas voulu accélérer les choses par rapport aux échéances électorales de 2012? Et est-ce qu'il n'a pas fait cette erreur-là d'aller peut-être trop vite pour cette composition des communautés?
Alors, écoutez, trop vite, je ne sais pas, parce que quand même, ça fait déjà longtemps qu'on y travaille. Ça faisait partie du programme du candidat Nicolas Sarkozy. Lui, au moins, c'est le seul président depuis bien longtemps qui a réalisé tout ce qu'il avait indiqué dans son programme. Donc, on savait pertinemment qu'il y aurait cette réforme. Et cette réforme, elle est indispensable. Pas continuer à fonctionner avec tous ces CIVU, ces syndicats intercommunaux, ces communautés de communes. Ça coûte très cher à tout le monde, et notamment aux contribuables, alors qu'on pourrait regrouper tout ça dans des entités qui auraient plus de force. Non, je crois que ce qu'on a sous-estimé, ce que le gouvernement a sous-estimé, justement, c'est la peur que cela allait créer, on l'a bien vu aux élections sénatoriales, parmi les maires ruraux. Ça se passe beaucoup mieux dans les grandes villes. Les grandes villes, c'est beaucoup plus facile. J'ai vu que, par exemple, il va y avoir une communauté, une métropole à Nice. Je pensais que jamais ils arriveraient. Ben si, il y a un accord qui a été passé entre plusieurs grandes communautés urbaines des Alpes-Maritimes qui vont se regrouper pour faire une grande métropole. Donc, dans les villes, c'est beaucoup plus facile que dans les communes rurales. Donc, donnons-nous du temps. Ce qui est prêt, on l'acte. Et ce qui n'est pas prêt, eh bien, on continue à discuter.
Alors, ce qui est reproché à ce projet, c'est le fait aussi que les concitoyens ne sont pas partie prenante, puisque les postes qui vont être donnés à ces nouvelles communautés de communes sont désignés par les conseils municipaux et non par les électeurs. Est-ce que là, il n'y aurait pas une réforme, une réflexion à avoir sur le vote des élus, puisque la priorité, ce sont les élus locaux pour défendre les projets locaux et départementaux.
Le deuxième volet de la loi, c'est que les conseillers communautaires vont être élus en même temps, le même jour, que les conseillers municipaux sur une liste distincte. Tandis qu'en ce moment, nous sommes tous l'émanation de nos conseils municipaux.
D'accord. Donc c'est
le peuple qui vote. Mais après, on sera l'émanation du peuple, puisqu'il y aura la liste pour le conseil municipal, et à côté, le même jour, en même temps,
d'accord,
la liste des conseillers communautaires.
Alors donc, ça, c'est pas mis en avant, par contre, alors, du coup.
C'est un progrès énorme qui va être fait, mais c'est lié, bien sûr, c'est lié à la réforme des communautés de communes.
D'accord. Donc la fusion, à terme, est nécessaire, pour qu'il y en ait un peu moins.
J'ai vu que dans le programme du candidat socialiste, par exemple, autant il dit la réforme territoriale concernant les conseils généraux, celle-là, si on est élu, on l'annule. Autant la réforme concernant les communautés de communes, il faut même aller plus loin encore que ce que le gouvernement actuel a décidé. C'est certainement pour ça aussi que nombreux élus de gauche qui étaient farouchement contre cette réforme territoriale, eh bien on voit bien qu'il y a un changement de cap et que maintenant ils sont demandeurs.
Alors, justement, par rapport à ces conseillers généraux et régionaux qui vont tout doucement, dans quelques années, être plus qu'un seul, vous, en tant que UMP, que parti de droite, vous êtes pour cette fusion là, des conseils généraux et régionaux ?
Non, puisque je me suis abstenu à cause de ça lors du vote. Moi, je pense qu'un département comme le nôtre, tomber à 15 conseillers généraux, ça ne veut plus rien dire, parce qu'on ne peut pas faire fonctionner un conseil général d'un département aussi vaste que le nôtre avec 15 personnes. Donc, je m'étais vraiment battu avec Henriette Martinez pour qu'on porte le nombre au moins à 20. Ça a été refusé, on est resté à 15. Donc, je continue à être farouchement contre cette réforme-là. Je pense qu'il faut nous laisser comme on est un département rural et de montagne, l'espace est immense à entretenir, donc il faut des hommes sur cet espace. Dans les villes, c'est pareil, qui connaît le conseiller général de Marseille ou de Paris? Ici, on connaît tous nos conseillers généraux parce qu'ils jouent un rôle important
et la proximité
de l'aménagement du territoire.
D'accord. Alors on va tout doucement glisser sur le deuxième sujet qui est le désenclavement. On parle du désenclavement surtout de la partie Digne avec donc le projet autoroutier qui a été donc abandonné. On parle deux fois de voies, on parle d'un réaménagement de la route, on parle de l'ouverture du chemin de fer, la ligne Digne-Saint-Auban. Quel est le projet le plus adéquat à votre avis pour avancer sur ce désenclavement qui reste quand même encore très polémique pour certaines personnes où les gens ne sont pas forcément d'accord sur la solution à adopter?
Bah écoutez, déjà, ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas laisser la ville chef-lieu, qui devrait être le poumon économique de notre département, à côté du développement. On voit bien qu'en ce moment, Manosque, Sisteron se développe beaucoup, Château-Arnoux aussi, et qu'à côté, Digne, eh bien, peine, et si on ne fait pas quelque chose, mourra de sa belle mort. Moi, je crois qu'on a intérêt, on a tous intérêt à avoir une ville-préfecture vraiment solide et très dynamique. Bon, pour qu'elle le soit, il faut qu'elle ait minimum le train, ça va être fait, puisque ça y est, les crédits sont inscrits, les travaux sont lancés. J'ai vu d'ailleurs en passant en allant à Digne il y a 2 jours qu'on travaillait déjà sur la ligne de chemin de fer, ça c'est une bonne chose, mais en même temps il faut également avoir une route digne de ce nom. Alors l'autoroute, le barreau autoroutier exactement a été abandonné, mais par contre il y a des études qui vont commencer sur 2x2 voies, un aménagement de la route actuelle qui devrait améliorer d'une façon très sensible les choses. Et d'ailleurs je soutiens l'association de Madame Baudu-Morel parce que je trouve que les propositions qui sont faites sont les bonnes. Et si j'ai bien compris d'ailleurs, le ministère des Transports suit plutôt cette ligne-là. Et je crois que là-dessus on est en bonne voie et que les crédits d'études vont être inscrits. Parce qu'il faut aller de l'avant, exactement comme la 51. C'est pas normal que l'autoroute, on est seul en France où l'autoroute s'arrête à la Solse.
Oui, ouais.
Et puis elle continue pas. Alors à quoi ça sert quand vous avez une autoroute, il faut qu'il y ait un bouclage. Voilà, et le jour où on aura bouclé avec Grenoble et Lyon, là, on aura un développement économique qui s'accentuera, et je suis persuadé que tout le monde en ressentira les bénéfices. Pour le moment, eh bien, on est aussi bien à Digne qu'ici, on est un peu laissé sur le bord du chemin, et je regrette qu'on ait été sacrifié sur le Grenelle de l'environnement pour faire plaisir, notamment aux Verts qui avaient déjà eux-mêmes sabordé quand ils étaient au gouvernement avec M. Jospin, l'autoroute A51, qui, elle, avait été à l'époque actée. On en était à l'enquête du TT public. Et malheureusement, eh bien, les Verts, qui étaient au gouvernement, qui avaient le ministre, eh bien, avaient arrêté ce grand chantier. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on voit bien que c'est très difficile ensuite de rattraper les choses.
Et vous pensez que ça va être malgré tout rattrapable dans quelques années, parce qu'on sait que lorsque les choses sont votées, elles mettent un certain temps après pour se mettre en place. Est-ce que vous avez malgré tout dans l'avenir de l'espoir que ce barrage autoroutier de la Solse jusqu'à sa destination initialement prévue va revoir le jour, peut-être après les présidentielles?
Moi, j'espère qu'on aura un jour un ministre courageux et qui décide de faire cette jonction. Bien sûr que je suis très inquiet si les socialistes viennent au pouvoir, puisque les Verts seront au gouvernement, hein, ils l'ont annoncé clairement, et que les Verts empêcheront tout développement en France des autoroutes. Et donc, elle sera définitivement condamnée. Par contre, s'il y a un autre gouvernement et un autre ministre, moi, je mets beaucoup d'espoir que la prochaine fois, on obtienne enfin l'autoroute. Et d'ailleurs, M. Bernard Raymond, le sénateur des Hautes-Alpes, se bat dans un collectif dont je fais partie, qui a été créé, qui s'est réuni il y a quelques jours à Sisteron, se bat pour obtenir enfin satisfaction.
Alors, comment vous expliquez aussi, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Sisteron, Manosque sont deux pôles assez importants. Manosque, avec l'arrivée d'ITER, se développe rapidement. Sisteron, bon, depuis des années, se développe grâce à votre savoir-faire et grâce au partenariat que vous avez su créer. Comment vous expliquez que Digne est, je vais dire, à la traîne? Pourquoi les entreprises ne viennent pas s'installer sur le secteur du pays dinois? Est-ce que c'est dû justement à ce fameux désenclavement, ou est-ce que c'est dû à une volonté politique qui n'y est peut-être pas par les élus locaux? Comment vous expliquez que Digne est malgré tout un petit peu derrière vous, alors qu'elle devrait être le moteur, puisque c'est la ville-préfecture?
Oui, non, moi je ne veux pas critiquer les élus, parce que c'est très difficile pour tout le monde. Et moi j'ai la chance d'être dans un secteur en plein développement. Pourquoi? Parce que on est désenclavé. Moi j'ai la dernière gare du département, elle est chez moi, j'ai tout refait, j'ai une magnifique gare toute neuve, j'ai l'autoroute, vous vous rendez compte, avec deux sorties et deux entrées de l'autoroute de chaque côté, à l'est et à l'ouest, et donc ouais, j'ai des avantages énormes, et à partir de ça, j'ai développé ma commune, Manosque, c'est pareil. Je crois que le Digne souffre de l'enclavement dans lequel elle se trouve. Le jour où il y aura une route digne de ce nom, et qu'il y aura de nouveau le chemin de fer, vous verrez qu'elle se développera. Et il y a la place pour tous. Et moi, je me réjouis quand je vois Maligé, là, qui sont en train de faire un parc d'activités privées. Eh bien, je me dis, tant mieux, parce que tout ce qui se fait à Maligé intéresse le Val de Durance et intéresse Sisteron. Donc, il y a un mauvais passage. Bon, bien sûr, il aurait mieux dû que Digne se développe depuis 10 ans. Je ne pense pas que ce soit les élus qui soient quand même la cause essentielle de ça. ils ont beaucoup pâti de l'enclavement, et ça il faut le dire, hein. Et puis surtout aussi que Digne n'est pas dans le Val de Durance. Vous savez, j'ai toujours comparé le Val de Durance. L'autoroute, c'est un tronc d'arbre, et sur ces troncs d'arbre, il y a des vallées. Eh bien, vous regarderez, quand on regarde une carte, on le voit, ce tronc d'arbre, avec toutes les vallées. Il aurait fallu que ce tronc d'arbre, eh bien, il irrigue les vallées, qu'il puisse, qu'à travers ces branches qui viennent sur le tronc d'arbre, eh bien, on ait des vallées prospères. Or, ça, je le regrette infiniment, ça n'a pas été fait, malheureusement, par les autorités départementales qui auraient dû saisir l'occasion en disant, eh bien, allez, on va faire une grosse politique d'aménagement du territoire pour accueillir des entreprises dans les vallées à partir de l'autoroute. Ça n'a pas été fait, on l'avait commencé avec Rinaldi, ça a été abandonné, c'est vraiment dommage.
Alors on va partir sur le dernier sujet qui est donc les présidentielles qui auront lieu en 2012, en mai 2012. Quel regard vous avez porté, vous, sur les primaires des partis socialistes avec cette participation pour désigner le candidat, le porte-parole du parti, donc qui a été François Hollande avec plus de 56% des voix. Est-ce que pour vous c'est une vraie forme de démocratie? Il y a des gens qui ont été un petit peu surpris de l'euro, de payer un euro pour aller voter, de signer une charte pour adhérer un petit peu ou approuver un petit peu les idées du parti. Quel regard vous portez sur ces primaires?
Ben écoutez, au départ j'étais sceptique, je pensais que ça marcherait pas, donc je dois reconnaître qu'elles ont plutôt marché, même si 2 500 000 électeurs par rapport à 65 millions de Français, c'est quand même peu, ça fait, ça doit faire 6 ou 7%. Mais néanmoins, ça a surtout permis au Parti Socialiste de se refaire une santé, ça a permis à M. Hollande d'occuper, puisque depuis le début on voit bien que tous les médias étaient pour lui, et d'occuper le côté médiatique. Nous, pendant un mois et demi, on n'a plus eu droit à une émission, rien. On a 273 heures de retard par rapport à la gauche. Donc j'espère qu'on va nous, au nom de la démocratie, que la gauche est toujours en train de nous servir sur tous les plats à l'Assemblée nationale, eh bien j'espère qu'elle-même, elle va dire, attendez, maintenant il faut rééquilibrer, parce qu'on est franchement très en avance. Alors, je pense que ça a plu plutôt aux Français, le fait de payer un euro. Je sais que ça a été assez contesté, mais 7 euros va servir pour payer la campagne électorale de M. Hollande. Et en même temps, je pense qu'il est plus embêtant, c'est qu'ils ont eu droit à toutes les listes électorales des 36 000 communes de France. Si nous avions fait la même opération, qu'on demande à avoir toutes les listes électorales, il y aurait eu la révolution dans le pays avec des manifestations de partout. Nous, on a laissé faire, on a dit, bon, ben, puisque le Conseil constitutionnel a décidé qu'on devait donner les listes électorales, on les donne. On a même mis les salles à disposition, le matériel, tout ce qu'il faut. D'ailleurs, aujourd'hui, M. Sauvin m'a adressé une très gentille lettre où il me remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir permis que ces élections se passent dans de bonnes conditions. Ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais après, on verra la suite, parce que pour le moment, la campagne électorale n'a pas commencé. Il y en a un qui travaille, qui est sur tous les fronts, qui en ce moment a beaucoup de soucis, et il n'y a pas que lui, avec ce qui se passe en Grèce, avec la crise économique, dont les primaires n'ont pas parlé du tout, n'ont pas parlé une seule instant d'endettement des pays occidentaux, n'ont pas parlé du marasme qui est en train de se mettre en place, et la France est responsable pour rien. C'est une crise mondiale qui est venue des États-Unis. De ça, on n'en a pas entendu parler. Donc il va bien falloir maintenant que M. Hollande nous dise ce qu'il va faire. Pour le moment, il ne nous a annoncé que des dépenses qu'on a fait évaluer, nous, en début de semaine à Paris. Et si vraiment ce programme était appliqué, dans les 6 mois qui viennent, la France serait ruinée. Voilà, moi, ce que je ne veux pas, c'est ça. Je fais confiance au président de la République. Je l'ai suivi pendant toutes ces années. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Peut-être qu'il n'a pas mis les formes qu'il fallait, peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit plus rond, plus présidentiel, comme on dit. Mais en attendant, eh bien, quand il faut mettre le pied à l'étrier, il le met. Quand il faut taper sur la table, il tape sur la table. Et il n'y a jamais eu un président de la République qui s'est autant battu que lui. Et puis sur le plan international, chapeau, on vient de le voir hier, avec la fin de l'ère Kadhafi.
Alors,
on voit que les sondages, pour l'instant, c'est peut-être comme ça que ça doit se faire, je ne sais pas, le donne derrière François Hollande. Nicolas Sarkozy, ce n'est pas encore prononcé. Tout le monde se doute qu'il va certainement aller à sa propre succession. Vous allez certainement le soutenir. Vous pensez qu'il a encore des chances d'être encore 5 ans au pouvoir après pas mal de contestations des gens. On lui reproche beaucoup de choses sur le plan national sans aller au-delà, avec des aides fiscales données aux plus riches et d'autres choses, des suppressions de postes. Est-ce que vous pensez qu'il a une légitimité pour continuer l'œuvre qu'il a démarrée en 2007?
Bien sûr qu'il a la légitimité. Tout ce qu'il fallait le faire. Quand on nous dit qu'on a donné aux riches, c'est pas vrai. Jamais un gouvernement s'est autant attaqué aux riches que le nôtre. Mais bon, malheureusement, il n'a pas eu de chance, puisque quand il est arrivé, 3 mois après, il y avait une crise épouvantable qui équivaut à une guerre mondiale. Alors comment voulez-vous s'en sortir aussi facilement? Il va de soi, tout le mécontentement, c'est lui qui le porte. C'est dans une commune, quand quelque chose qui ne va pas, c'est le maire. Quand ça va bien, on ne dit pas c'est grâce à lui. Mais quand ça ne va pas, on dit c'est le maire. Sur le plan national, c'est le président de la République en place qui prend tous les coups, beaucoup plus d'ailleurs que le Premier ministre ou que le gouvernement. Donc, moi je dis qu'il a été courageux et de plus en plus, ce matin, je recevais des gens qui m'ont dit on n'a pas voté pour lui. Mais là, on va voter pour lui parce qu'on a confiance et on voit qu'il est là. Il se bat, il essaie d'avoir un accord avec l'Allemagne à tout prix. Il travaille, voilà, et je crois que tôt ou tard le travail paie, et il paiera pour lui, parce que M. Hollande ne pourra pas rester indéfiniment sans rien nous dire, en promettant beaucoup de choses, sans savoir où il va prendre l'argent pour réaliser tout ça. Et puis M. Hollande a un gros inconvénient, c'est qu'il n'a jamais été au gouvernement, n'a même jamais été ministre. Madame Aubry, c'est une femme d'État, une femme solide qui a du fond, et qui, je suis sûr, aurait été beaucoup plus dangereuse pour le président de la République que M. Hollande, parce que très vite, vous allez voir, dans les semaines qui viennent, eh bien, les choses vont changer. Vous savez, qui aurait pensé que M. Montebourg fasse 17%?
C'est ça.
Aucun sondage n'avait prévu ça.
Et ouais.
Aucun sondage. Pourtant, on nous disait les sondages, voilà, ils donnaient déjà les chiffres, mais la montée de Montebourg, personne ne l'avait prévu. Donc les sondages, il faut s'en méfier, il y a une campagne électorale qui va commencer, il y a encore 6 mois avant de pouvoir voter. En attendant, nous on travaille à l'Assemblée nationale jusqu'au mois de mars, on vote des lois, on améliore les choses, et puis la crise économique, elle est là, et puis tous les jours il y a un lot nouveau d'incertitudes. Il faudra peut-être revenir encore à l'Assemblée nationale dans pas longtemps pour voter peut-être un nouveau plan, j'en sais rien. Je ne souhaite pas, mais on voit bien que j'ai vu que l'Italie est obligée de revoter dans les jours qui viennent un nouveau plan d'austérité, comme l'a fait hier la Grèce. Donc, on voit bien que la situation n'est pas stabilisée. Mais moi, je fais confiance. En ce moment, il n'y en a qu'un qui peut nous sortir d'affaire. Il n'y en a pas 36. Il n'y en a qu'un. Et même certains socialistes le reconnaissent.
Alors,
Nicolas Sarkozy.
Justement, on a vu le basculement du Sénat. Jean-François Copé disait le soir de l'élection des primaires, le résultat des primaires a été assez virulent et a annoncé que vous alliez décortiquer le programme pour essayer d'avoir des contre-attaques et démontrer que le programme des socialistes n'est pas le bon. Vous pensez que c'est la solution? Est-ce que par exemple ce basculement du Sénat à gauche ne vous donne pas un petit peu un temps d'arrêt pour dire bon, les Français... Il s'est passé ça, il y a un basculement à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas essayer de réfléchir à comment changer les choses pour éviter d'aller à l'affrontement droite-gauche?
Bon, déjà, si le Sénat est passé à gauche, c'est bien notre faute à droite, puisqu'on voit bien qu'on a perdu 5 sénateurs à cause des divisions. Autrement, on avait la majorité. Alors déjà, il faut recalibrer les choses. Mais le Sénat, vous savez, est élu par les élus, par les maires,
Par le peuple. Pas par le peuple,
vous savez que les commissaires et les communautés de communes n'étaient pas élus par le peuple, ben ça c'est le cas. Le Sénat est élu directement par les élus. Bon, néanmoins, ça n'a pas fait plaisir. Bon, moi j'aurais été M. Copé, j'aurais pas réagi comme il a réagi, ça m'a pas plu, parce que je suis pas quelqu'un qui aime attaquer, je préfère proposer. Mais par contre, décortiquer, comme on l'a fait mardi à l'Assemblée nationale, le programme, c'est normal. C'est normal qu'on dise aux Français, attendez, on vous annonce 60 000 nouveaux postes dans l'éducation nationale, c'est impossible. Revenir à la retraite à 60 ans, c'est impossible, mais vraiment impossible. Alors vous perdez vos retraites. Donc, et voilà combien va coûter ce programme. On l'a évalué, on l'a mis sur la table, d'ailleurs ça n'a pas été contesté. Et maintenant, après les Français choisiront, une fois qu'on leur a bien exposé les choses, eh bien les deux programmes face à face, les Français choisiront. Et puis la démocratie, moi, en tous les cas, je respecterai la démocratie de mon pays. Si c'est la droite qui reste au pouvoir, ben, je me réjouirai. Et d'autant plus, je ne serai plus candidat à ma succession comme député, donc je serai beaucoup plus libre de mes actes. Et si c'est la gauche, ben, je m'inclinerai, comme je l'ai fait les 14 ans où il y a eu M. Mitterrand. Bon, c'est ça la démocratie.
Dernière question.
De prendre des positions dures, non, ça sert à rien. Les gens, ils veulent pas ça. Les gens, ils veulent qu'on leur parle des projets. Qu'est-ce que vous allez faire pour les 5 ans à venir, pour notre pays?
Dernière question, puisque nous arrivons au terme de notre émission, que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs de notre station qui sont un petit peu déprimés, qui n'ont plus confiance en l'homme politique, qui n'ont plus confiance à tout ce qui se passe actuellement avec le pouvoir d'achat, avec les salaires qui n'augmentent pas, avec les charges qui augmentent? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour qu'en mai 2012, un maximum de Français aillent voter? Parce que c'est un droit à utiliser et qui reprennent confiance un petit peu en l'homme politique, oui, et au système.
Il faut qu'ils aillent voter, mais qu'ils ne votent surtout pas pour les extrêmes. Après, à la rigueur, ils peuvent voter comme ils veulent, mais surtout pas pour les extrêmes, ça amène à rien. Mais moi, je leur dirais qu'on vient de passer une période très difficile, une crise, je le redis, une crise économique, qui équivaut à une guerre mondiale avec son lot de sacrifices, de malheureusement de peur, bien sûr, pour l'avenir d'une jeunesse qui ne sait pas ce qu'elle va devenir, tout ça. Mais après des périodes aussi dures, il y a toujours après des années où on reconstruit, où tout repart. Ça, la France, comme tous les autres pays d'Europe, c'est de grands pays industriels. Ça va repartir. On a un mauvais passage, mais faites-nous confiance surtout. Et puis, ne dites pas toujours du mal de vos élus. Vos élus, ils sont là, sur le terrain. Ils travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup. Et on ne travaille pas pour nous. On travaille pour l'avenir du pays. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Et puis, quand vous avez des élus qui ont des convictions, comme moi, c'est-à-dire qui croient à la France, qui croient au drapeau, qui croient à l'hymne national, qui croient en Dieu, eh bien, soutenez-le, parce qu'on n'est pas nombreux, vous savez, à avoir ces convictions, malheureusement, dans notre pays, de moins en moins. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les hommes qui ont des convictions, parce que c'est ce qui nous manque terriblement dans le pays. Donc, faites confiance à ceux qui ont des convictions, et vous verrez que après un automne difficile, il y aura un beau printemps.
Merci beaucoup Daniel Spanou, vous restez en antenne avec nous pour continuer 2 minutes notre conversation. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes ces questions qui touchent les Français et qui touchent les habitants des Alpes-de-Haute-Provence. Et puis au plaisir de vous retrouver sur notre antenne pour discuter de d'autres sujets.
Merci.
Très bonne journée sur RCF, merci de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.